Studio Tamani, voici les informations en français.
À l'écoute des programmes de Studio Tamani, bonsoir à tous et bienvenue. Voici le sommaire de ce journal. La distinction de l'ancien juge islamique de Tombouctou irrite des organisations de défense des droits humains au Mali. Elle dénonce une atteinte à la mémoire des victimes de la crise à Tombouctou. Des universitaires saluent les innovations dans l'avant-projet de constitution. Ils estiment toutefois que certaines parties du texte doivent être revues. Le Mali a célébré ce jeudi 17 novembre la Journée internationale de la philosophie. Quel est l'intérêt des études de philosophie et le rôle des philosophes dans le pays? La réponse dans ce journal avec Setou Kanté, mise en onde Nohom Djiri. Des organisations maliennes de défense des droits humains demandent l'annulation de la distinction de l'ancien juge islamique de Tombouctou, Ouga Ouga Ag Alousseni. L'ancien membre d'Ansardine a reçu une attestation de reconnaissance des mains des autorités régionales de Tombouctou le 11 novembre dernier. C'était à l'occasion de la journée des légitimités traditionnelles. Pour ces organisations, cette distinction est contraire aux principes de l'état de droit et constitue une atteinte à la mémoire des victimes. Les détails avec Adama Amadou Aïdara.
37 organisations maliennes de défense des droits humains condamnent cette attribution d'attestation de reconnaissance à Ouga Ouga Ag Alousseni. Dans la note de position conjointe publiée ce 16 novembre, elles estiment que cet acte est de nature à commémorer les bourreaux au moment où les victimes attendent que justice soit faite. Elle rappelle également dans le document que Ouga Ouga est toujours poursuivi pour des crimes au droit international imprescriptibles. Il s'agit notamment des faits de mariage forcé, d'esclavage sexuel, de viol, de torture, d'extorsion de fonds à Tombouctou, précise la note. Ces organisations demandent au gouverneur de la région de Tombouctou de revenir sur sa décision. Aussi, elle appelle les autorités du pays à faire de la lutte contre l'impunité une priorité. Ouga Ouga Ag Alousseni dirigeait un tribunal islamique pendant l'occupation de Tombouctou par les groupes islamistes. Il a été arrêté le 17 janvier 2014 par l'armée malienne avant d'être libéré le 14 août de la même année.
Et à Tombouctou, aucune réaction à cette distinction de Ouga Ouga Ag Alousseni pour le moment. Les autorités régionales et la société civile se refusent à tout commentaire sur le sujet. Toutefois, dans la décision du gouverneur portant attribution d'attestation aux légitimités traditionnelles, il est précisé en son article 1 que l'ancien juge islamique a reçu cette attestation en tant que cadi des Ouléyas dans la commune de Sakane, cercle de Goundam. Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. L'avant-projet de constitution était en débat ce jeudi à la faculté de droit sur la colline de Badalabougou. C'était à la faveur d'une journée constitutionnelle organisée par des universitaires. Elle avait pour thème avant-projet de constitution pour le Mali, regard croisé des universitaires pour une réforme stabilisatrice. Le reportage de Aboubakrine Ag Mohamedine Yatara.
Dans leurs interventions, les panélistes ont apprécié certaines innovations prévues dans l'avant-projet de constitution. Professeur Mohamed Lamine Dambélé, un des organisateurs de la journée constitutionnelle.
Il y a des innovations sur le plan institutionnel, sur le plan procédural, même par rapport à un certain nombre d'engagements du pays. Par exemple, de la consécration des légitimités traditionnelles, la prise en compte par exemple de l'environnement.
Enseignant-chercheur à l'Université des sciences juridiques de Bamako, Dr Mori Diallo, estime que certaines dispositions des textes doivent être revues.
On a dit, nul ne peut dépasser 2 mandats. Mais, et la durée du mandat? Aujourd'hui, c'est 5 ans. Celui qui décide d'augmenter le nombre de la durée de 5 ans à 7 ans, c'est pas interdit. On doit réfléchir sur ça. Penser qu'ils allaient assouplir un peu les mécanismes de la révision. Par exemple, donner la possibilité au Congrès de réviser certains articles. En plus de cela, le nombre des membres du gouvernement.
Selon les organisateurs, les recommandations et conclusions de cette rencontre seront mises à la disposition des plus hautes autorités.
Direction Nara, où l'accès à la justice devient de plus en plus un défi. La distribution de la justice est butée dans la région à la problématique de l'insécurité et le manque de confiance des justiciables. Mais pour certains, la justice est bien distribuée à Nara et c'est là malgré le sous-financement du secteur et le manque d'équipement. Le point avec notre envoyé spécial de retour de Nara, Intala Akbilal.
À Nara, de nombreux citoyens ne font pas confiance en leur justice. Ils estiment qu'elle est sélective et au sort des riches. Mais plusieurs autres saluent l'équité et la transparence du juge de Nara.
Quelque part, il y a des soupçons de corruption.
Bon, on pense que ceux qui sont nantis, ce sont eux qui gagnent toujours les procès.
Le juge à Nara, réellement, il fait son boulot. Le juge, souvent, il a des pressions. On le parachute certaines décisions.
Ce dernier avis est partagé par le tribunal de Nara. Pour Khalilou Kanté, juge de paix à compétence étendue de Nara, la justice est bien distribuée dans sa région. Et cela malgré les difficultés liées à l'insécurité et au manque d'équipement.
Nous sommes vraiment confrontés aujourd'hui au problème récurrent du terrorisme. Souvent, on a des difficultés à faire citer donc les personnes contre lesquelles ceux-là sont opposés. Il y a une grande difficulté aussi à faire en sorte que vraiment les juges puissent travailler sereinement. Même dans sa tête, c'est difficile parce qu'il y a trop de stress.
Enfin, il faut noter que les affaires les plus courantes en Nara sont les divorces, les cas d'hérédité, les réclamations d'animaux, les cas de viol, les meurtres et les cas de coups et blessures volontaires.
Je vous l'annonçais dans les titres. Aujourd'hui, 17 novembre, est la journée internationale de la philosophie. Au Mali, l'événement a été célébré sous le thème « Engagement, démocratie et exigence de sécurité ». Il intervient au moment où certains s'interrogent encore sur l'intérêt des études de philosophie et le rôle des philosophes dans le pays. Pour Dr Adama Marigo, chef du département de philosophie de l'École normale supérieure, les diplômés de philosophes chôment moins que ceux d'autres filières. Il est au micro de Sita Sidibé et Alassane Diakité.
Nous avons réfléchi par rapport à la situation actuelle de notre pays, situation d'insécurité, manque d'engagement, problème de démocratie. Je pense que tous les étudiants qui terminent en philo sont en train de travailler. Au niveau du public, au niveau du privé, je pense qu'il y a une relative possibilité d'avoir un emploi en philo que dans les autres filières. Je pense que le philosophe peut jouer tous les rôles. Contrairement à ce que le citoyen lambda pense, que ce soit au niveau de l'administration, du privé, il y a un engouement certains dans ces derniers temps. Ce qui fait d'ailleurs que les docteurs sont en train de se multiplier du jour au lendemain.
Actualité régionale en brève, dans le cadre des préparatifs du 50e pèlerinage catholique à Kita, l'axe principal de la mission catholique a été assaini hier mercredi. Cette activité, instruite par les autorités locales, a mobilisé les élèves de la ville. À noter que les pèlerins marcheurs ont été accueillis à Kita ce jeudi matin par le curé de la paroisse de Kita, Abbé Georges Debé. Le pèlerinage se tiendra du 19 au 20 novembre 2022 dans la localité. À Walia, dans le cercle de Bafoulabé, les feux de brousse sont interdits depuis la semaine dernière par les autorités communales et les agents du service des eaux et forêts. Cette décision a été prise lors d'une rencontre d'échange entre le service des eaux et forêts, les autorités locales et les populations. Au cours de la dite rencontre, le service des eaux et forêts a expliqué les inconvénients de cette pratique aux populations. Ses responsables ont rappelé que les contrevenants seront sanctionnés et punis conformément à la loi en vigueur. Notre dossier de la semaine s'intéresse aujourd'hui au port de la tenue scolaire. À Bamako et à l'intérieur du pays, nombreux sont les établissements scolaires qui en font une obligation. Dans certaines écoles, l'uniforme s'achète au sein de l'établissement, une situation que dénoncent certains parents d'élèves. Que disent donc les textes sur le port de la tenue scolaire? La réponse dans ce dossier est signée Adama Amadou Aïdara.
Le port de la tenue scolaire est exigé dans tous les établissements secondaires généraux. C'est ce que nous dit Isiaka Kodjo, proviseur du lycée public de Yorosso. Selon lui, c'est le règlement intérieur des établissements secondaires qui le demande.
Dans son article 31, il est dit que le port de la tenue scolaire est obligatoire. Un élève peut avoir un problème dans la rue. On peut directement identifier que cet élève vient de tel ou tel établissement et directement on peut saisir l'administration de cet établissement pour qu'on puisse lui venir au secours.
Au second cycle B de Yorosso, le port de la tenue scolaire n'est pas une obligation. Cependant, son directeur Daouda Sanou dit ne pas ignorer son importance.
Ça permet aux enfants de s'habiller correctement et ça va éviter également la discrimination parce qu'il y a des parents qui ont les moyens pour payer des habits très chers à leurs enfants, et tandis qu'il y a des enfants aussi des pauvres.
À Kita et à Kolondjeba, dans certaines écoles, le port de l'uniforme est obligatoire. Cependant, elle est vendue au sein de l'établissement et le prix varie selon les localités.
Souvent, en cousi, ça fait 12 000 francs. Voilà, 10 000 francs pour les tenues. Maintenant, les frais de couture, ça fait 2 000 francs. Il y a deux complets.
C'est des t-shirts préfabriqués avec les calligraphes. L'unité ici, c'est 4 000 francs. Le t-shirt à 2 500, le kaki à 1 500. Sinon, au niveau du fondamental maintenant, c'est 3 500.
Les parents d'élèves n'ont pas les mêmes avis sur cette méthode. Si pour certains, voir les enfants porter la même tenue est le plus important, pour d'autres, les responsables d'école doivent revoir les prix de vente de ces habits.
Le port de la tenue a ses avantages. Ça met les enfants sur les mêmes pieds d'égalité.
Les tenues scolaires sont chères, surtout quand on a deux ou trois enfants dans la même école, en plus de la mensualité aussi. C'est vraiment pas facile.
Cependant, les élèves apprécient bien le port de la tenue, même si ça leur arrive de l'enlever souvent.
J'aime beaucoup la tenue scolaire.
Je porte ma tenue chaque jour pour venir à l'école.
J'aime vraiment la tenue scolaire. Mais quand il fait chaud, j'enlève souvent.
Parce que grâce aux tenues, tous les élèves sont des mêmes pieds d'égalité.
Rappelons que le non-respect des dispositions du règlement intérieur des établissements d'enseignement secondaire est considéré comme une faute et fait objet de sanctions, comme c'est écrit en son article 32.
Un mot de sport football. Les Aigles du Mali ont tenu un échec les Fenech d'Algérie hier en match amical et un but partout. La rencontre s'est jouée au stade olympique d'Oran. Les Algériens ont ouvert le score en première mi-temps grâce à un pénalty de Riyad Mahrez alors que les Aigles ont égalisé en seconde période suite à une reprise splendide de Massadio Haïdara. Dans quelques minutes, ce sera le grand dialogue. Bonsoir à Sekou Gadjigo. Ce soir, vous allez aborder quel sujet dans le débat?
Bonsoir à Sétou Kanté. Le thème du grand dialogue de ce soir est immigration, quel apport et conséquences à Céline Kenyi. Nos invités sont Moussa Diaby, maire délégué de Céline Kenyi, Boubacar Diaby, migrant de retour, Moustapha Diaby de l'association AJDSB de Céline Kenyi et Binta Diaby, représentante des femmes de Céline Kenyi.
Merci et très bon débat. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez écouter toutes ces informations sur notre site web au www.jotamani.org ou en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321. Tout de suite, le magazine. Promouvoir un accès équitable à une éducation de qualité au Mali, c'est l'objectif que se sont fixés l'UNICEF et le PAM à travers leur projet dénommé Programme d'appui à l'inclusion scolaire au Mali, PAIS. Financé par l'Union européenne, ce projet vise à donner plus de chances aux enfants vulnérables d'accéder à l'école formelle. C'est un projet mis en œuvre dans plusieurs localités, dont Kolokani, dans la région de Koulikoro. Le magazine Tous les enfants du Mali est présenté et réalisé par Adama Amadou Aïdara.
Ce projet PAIS est mis en œuvre depuis 2018 par le Programme alimentaire mondial et l'UNICEF. Selon ses responsables, il s'agit d'offrir des opportunités éducatives aux enfants démunis et non scolarisés, dont au moins 50% des filles. Amadou Samake, spécialiste éducation au bureau UNICEF de Bamako.
L'objectif du projet est d'assurer l'insertion et le maintien de 250 000 enfants de la tranche d'âge 7-12 ans. Et avec ceci, avec des activités accessoires comme la formation des CGS, la formation des enseignants et la dotation en points d'eau et l'organisation des cours de rattrapage. En plus de cela, la partie est complémentaire avec PAM, c'est la dotation des écoles cibles en cantine.
Pour la dotation de ces écoles ciblées en cantine, le PAM débourse 105 francs CFA par élève et par jour. Issa Diakité, assistant programme au bureau PAM de Koulikoro.
Il s'agit de multiplier le nombre d'enfants par 105 francs par jour et vous avez le montant à lui. Tous les enfants qui sont au niveau de l'école sont bénéficiaires automatiquement, il n'y a aucune exclusion. L'objectif visé, c'est d'abord le maintien des élèves. Parce qu'avec la déperdition, il s'est avéré que beaucoup d'enfants abandonnent l'école parce qu'ils ont des soucis, surtout les élèves qui sont logés loin.
Les directeurs des différentes écoles bénéficiaires saluent le projet. Selon eux, de Kolokani-Ville en passant par les villages de Kodian, Djekouma et Tenenzana, ce projet a été d'un grand apport sur le taux de scolarisation.
L'intervention du PAM UNICEF, vraiment, c'est très très importante chez nous ici, à Djekouma. On a constaté beaucoup d'améliorations en effectif. Aujourd'hui, on a 421 élèves, dont 199 garçons, 222 filles.
Il y a eu une grande amélioration au niveau de l'école de Kouadjan ici, parce que le taux de fréquentation aussi est très élevé.
Dès que nous avons reçu l'intervention de PAIS au sein de notre établissement, l'école de Ténézan, le niveau de nos élèves a été rehaussé.
Le projet PAIS a aussi permis de réduire le taux de déscolarisation des filles et le mariage précoce dans le cercle. C'est du moins ce qu'affirme Mme Cissé Saoudata Sissougou, chargée de la scolarisation des filles au Cap de Kolokani.
Vu la déscolarisation de ces filles-là avant, nous avons vu maintenant que nous avons beaucoup d'améliorations au niveau scolaire. Donc nous avons le taux de scolarisation des filles de 47% en 2021 et maintenant nous avons le taux de 51,86% en 2022. Les mariages précoces, je peux dire que ça n'existe pas à Kolokani ville ici.
Bénéficiaires directs de ce projet, les élèves apprécient cette initiative qui leur permet d'étudier. Déjà, c'est tout petit ambition de réussir à l'école.
C'est l'UNICEF qui m'a donné les sacs pour que je puisse étudier.
J'ai fait la sixième année. On apprend le ventre plein et on comprend.
Je vais étudier parce que je ne veux pas rester analphabète.
J'aimerais à la fin de mes études être docteur pour aider les personnes démunies.
Le programme d'appui à l'inclusion scolaire au Mali PAIS doit prendre fin en 2022. Cependant, nombreux sont les bénéficiaires qui souhaitent sa prorogation, même s'ils demandent aux partenaires de revoir leur stratégie, notamment la dotation en kit scolaire.